France. Je sais pas si on peut afficher le... Voilà. C'est les vacances, c'est pour beaucoup d'entre vous, bientôt. Vous allez charger la voiture pour partir vous reposer le plus loin possible de la région parisienne. Et là, je vais peut-être surprendre les plus rêveurs d'entre vous. C'est que pour avancer, une voiture a besoin d'un moteur. Je vois les regards surpris de certaines personnes. Et aujourd'hui, en cette période de vacances, on commence une série sur le livre de un tiers dans la Bible qui nous montre quel est le moteur qui fait avancer le chrétien. Et à ce sujet, il a mis m'a raconté récemment une histoire qui leur est arrivée. Alors, venu d'un pays défavorisé, il recevait une jeune femme qui s'appelait Nora, et donc qui est arrivée chez mon ami et son mari. Elle était enceinte, et l'accès aux soins étant très coûteux dans son pays, elle souhaitait profiter de son séjour pour passer une échographie. C'était quelque chose de merveilleux pour elle, qu'on puisse voir le bébé à l'intérieur du ventre, et connaître à l'avant le sexe de l'enfant. Donc c'était un luxe impensable, mais elle a décidé de demander en toute simplicité à ses amis si ce serait possible. Et ses amis, par l'intermédiaire d'un ami obstétricien qu'ils avaient, lui ont permis de réaliser ce rêve le jour même. Le spécialiste, pas connu pour son tact et son amabilité, a fait l'échographie en silence. Vous connaissez ce genre d'échographe qui ne vous disent rien, vous attendez, attendez. On l'a vécu, nous. Hein. Et une fois qu'il a fini, il demande à mes amis, la jeune femme parle français? Non. Alors il dit, bah, alors vous traduirez ce que vous voudrez. Elle va perdre son bébé. Il n'a pas la place de se développer. Il y a un fibrome plus gros qu'un pamplemousse qui en empêche. Le fœtus n'est pas viable, je suis désolé. Bon, le bébé va bien pour l'instant, c'est une fille. Le couple se regarde, mais sans se concerter plus, se tourne vers leur ami. Ils font un grand sourire et disent, le bébé va bien, c'est une fille. La future maman est radieuse. Elle et son mari restent au pays et rêvent d'une fille pour leur premier enfant. Nora, elle repart dans son pays quelques jours plus tard, sereine et chargée d'une belle promesse de l'enfant à venir. Le bébé est né peu avant le terme. C'est effectivement une belle petite fille qui a reçu le nom de Naomi, minuscule mais vivante. Naomi est devenue une belle jeune fille, plus petite que les autres enfants de son âge, mais vive et enjouée. M'a-t-on dit, elle fait le bonheur de ses parents qui savaient que tout allait bien. Tout cela serait-il arrivé si ses hôtes avaient découragé Nora? Mon ami, qui connaît bien sa Bible, m'a cité le verset biblique « Ne craignez pas leurs craintes », c'est-à-dire ne craignez pas les craintes des autres, et ne soyez pas effrayés. C'est dans Isaïe 8, verset 12. La joie a été un meilleur moteur que la peur. Et l'apôtre Pierre, dans le texte qu'on va lire ce matin, il ne dit pas le contraire. Et je vous invite à ce qu'on le lise ensemble. On va l'afficher. Il s'agit du premier chapitre. J'ai sélectionné les versets 1 à 9. Moi, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, j'écris à ceux que Dieu a choisis et qui vivent comme des étrangers dans les provinces du Pont, de la Galatie, de la Cappadoce, de l'Asie et de la Bithynie. Dieu le Père vous a choisi d'avance comme il l'avait prévu. Il a fait de vous un peuple saint par son esprit, pour que vous obéissiez à Jésus-Christ et pour que son sang répandu vous rende pur. Que Dieu vous bénisse et vous donne la paix en abondance. Chantons la louange de Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande bonté, il nous a fait naître une deuxième fois en relevant Jésus-Christ de la mort. Nous avons ainsi une espérance qui fait vivre et nous pouvons attendre avec joie les biens que Dieu garde pour nous. Il les garde pour s'abîmer, ni être sali, ni disparaître. Et vous-même, si vous croyez, le Dieu puissant vous garde pour vous sauver. Ce salut, on le connaîtra à la fin des temps. C'est pourquoi vous êtes remplis de joie, même si toutes sortes de difficultés doivent vous rendre triste pendant un peu de temps. Ces difficultés servent à montrer la qualité de votre foi. L'or peut s'abîmer, pourtant on le met dans le feu pour voir s'il est pur. C'est pareil pour votre foi. Elle est plus précieuse que l'or, mais elle aussi est mise à l'épreuve. Alors, quand Jésus-Christ paraîtra, vous recevrez honneur, louange et gloire à cause de la qualité de votre foi. Jésus, vous ne l'avez pas vu, et pourtant vous l'aimez. Vous ne le voyez pas maintenant, et pourtant vous croyez en lui. C'est pourquoi vous êtes remplis d'une très grande joie, une joie si grande qu'on ne peut même pas en parler. Cette joie, vous l'avez parce que vous êtes sauvés. Voilà la récompense que vous gagnez en croyant en Jésus. Alors, si vous n'êtes pas fan de géographie, je vous apprends que Pierre s'adressait là à des chrétiens qui étaient dans le, on dit le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, ce qu'on appelle la Turquie actuelle. C'était des chrétiens d'origine juive pour la plupart, donc qui vivaient dispersés à l'étranger. C'est la première chose qu'on apprend sur eux. La deuxième chose qu'on apprend sur eux, c'est qu'ils passaient par des difficultés. Et sans aucun doute liés à leur foi. Et Pierre souhaite les encourager, comme l'a dit Manu ce matin. Mais si cette lettre, elle a été plus loin que la Turquie, c'est que c'est un peu notre lot commun à tous. Être étranger, passer par des difficultés. Même pour le chrétien français né en France, nous devons nous sentir étrangers, mais nous devons passer par des difficultés. Parce qu'en tant que chrétiens, nous faisons des choix différents et qui dérangent. C'est difficile, par exemple, d'aimer celui que tout le monde déteste au travail. C'est se mettre à l'écart. Et il ne faut pas s'attendre à autre chose que se sentir étranger ou passer par des difficultés quand on est chrétien. Et pourtant, Pierre nous dit à plusieurs reprises dans ce texte que le moteur du chrétien doit être une très grande joie. C'est traduit comme ça dans ce texte. Dans d'autres, c'est traduit « tressaillir d'allégresse », le plus vieux français, ou alors « ressentir une joie indescriptible ». Transporter de joie, dans d'autres. C'est difficulté du traducteur de traduire un mot très fort dans cette langue, une joie exceptionnelle. Alors, en étudiant ce texte, moi, je ne sais pas pour vous, j'ai senti comme un petit manque. Je suis un chrétien convaincu depuis des années, convaincu par l'enseignement du Christ que c'est la meilleure façon de vivre. J'aime le Seigneur. Mais est-ce que je connais vraiment cette joie qui est décrite ici? Est-ce que quand vous me voyez le dimanche matin, oui, il y a une joie qui transporte. Vous dites plutôt les marais, il a encore oublié de me dire bonjour. Je voudrais retrouver cet amour et ce feu, comme on a chanté ce matin. Et je sais que vous n'êtes pas bien différent de moi, au fond. On aspire tous à être comme le Christ l'était. En le voyant agir, ses disciples, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils se sont souvenus du passage de l'Écriture. L'amour que j'ai pour ta maison, ô Dieu, est comme un feu qui me consume. Un autre passage dans l'Évangile, on décrit Jésus comme rempli de joie par l'Esprit Saint. Et dans sa dernière prière pour ses disciples, que dit Jésus? Il demande que sa joie passe à ses disciples. Dans sa prière testament, c'est une des paroles très importantes. Je vous ai parlé ainsi pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Jésus, il est venu nous montrer qui est Dieu. Quel est son caractère? C'est le rôle de Jésus. Et il nous montre un Dieu profondément joyeux. Pour comprendre vraiment qui est Dieu, des fois, on est souvent obligé de partir de notre propre expérience de l'amour, qui est bien faible souvent. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, quand vous étiez amoureux pour la première fois et que vous attendiez votre être aimé après avoir été séparé pendant quelques semaines, vous attendiez sur le pied de la gare ou autre, vous voyez cette joie qu'on a, quelques semaines. Il fallait faire un impair. Mais cette joie-là, que l'on ressent pour l'être aimé qui nous a manqué, chez Dieu, c'est permanent. C'est permanent. C'est une joie permanente comme ça. Est-ce que vous avez cette image de Dieu? Ou est-ce que vous avez une image faussée de Dieu? Et pourtant, on en reste souvent au sentiment d'être étranger, à attendre les difficultés qui nous tombent dessus. Le moteur est en panne. Je reviens d'une formation très intéressante. J'avais besoin d'une formation sur comment organiser son temps, gérer les outils modernes. Moi, j'étais un peu dépassé. J'étais au milieu de grands directeurs d'ONG qui avaient besoin aussi de cette formation, apparemment. Et je discutais de la gestion des mails avec un directeur qui dirigeait plusieurs associations que moi, je respecte beaucoup. Et il me disait, Coach Joël, quand j'ouvre ma boîte mail, je suis pris d'une angoisse terrible. Quoi. J'ai peur d'ouvrir le moindre mail. Ça, je me demande encore ce qui va me tomber dessus. Encore une tâche. J'ai fait ça me rassure un peu. Voilà comment on est souvent. Le moteur est en panne. On n'y arrive plus. Et Pierre, lui, ne nous laisse pas en rade. Et quand on se plonge dans ce texte, il nous donne l'essence dont on a besoin pour alimenter ce moteur, cette très grande joie. Cette essence, nous dit Pierre, c'est une espérance qui fait vivre. Vous vous souvenez de cette espérance qui fait vivre. Alors, il y a trois choses les plus importantes pour le chrétien que sont la foi, l'espérance et l'amour. Alors, si on voit facilement ce que c'est la foi ou l'amour, en général, on a plus de mal à comprendre l'espérance. Et c'est souvent pour ça qu'on est en rade, je me suis aperçu en étudiant ce texte. Et je peux vous le dire en tant qu'éditeur, il y a beaucoup de livres sur la foi, beaucoup de livres sur l'amour, très peu sur l'espérance. Et quand il y en a, ils ne vendent pas bien. Pourtant, les apôtres, que ce soit Paul, Pierre, nous disent que c'est essentiel à la vie chrétienne. Et si ça peut guider nos vacances, ce sera déjà pas mal. Et ça tombe bien parce que dans ce texte, on a une des plus belles définitions de l'espérance. Cette espérance, elle est triple. Dit Pierre. Elle repose premièrement sur le fait que le Dieu puissant nous garde pour nous sauver, dit ce texte. Le Dieu puissant nous garde pour nous sauver. Il est le gardien de votre âme, comme disent certaines prières connues. Ce qui veut dire que ceux qui placent leur confiance en Jésus, Dieu conserve dans son amour la mémoire de ce qu'ils ont été corps et âme. Comme nous sauvegardons les fichiers et photos que nous trouvons importants. Et pourquoi nous garde-t-il? Pour nous relever de la mort, comme il l'a fait pour son Fils, au temps voulu. Et pour bien comprendre la résurrection des corps, on est obligé de repartir de notre expérience faible de l'amour. Quand un être cher disparaît, on dit souvent qu'il ne disparaît pas complètement, mais qu'il reste vivant au-dedans de nous. Et nous entretenons le souvenir de ce que l'on a aimé, et on en parle autour de nous. Pour rester sur une note légère, mon hamster bonsaï, il est toujours là. Et j'en ai parlé à mes enfants qui ont voulu un hamster après. Vous voyez, mais on fait ça surtout avec nos grands-parents, nos amis, ce que l'on a aimé. Mais cela reste insuffisant malgré tout l'amour que nous pouvons avoir. Notre amour n'est pas suffisamment fort pour les faire revivre vraiment. Mais Dieu est amour, on nous apprend. Son amour est pur et parfait. Et son amour fera vraiment revivre ce qu'il garde. Comme son amour puissant pour son Fils l'a relevé de la mort. Et il vit maintenant au sein du Père, comme nous dit la Bible. Ce qui font notre joie, nous savons que quoi qu'il arrive, l'amour de Dieu nous relèvera. Cet amour, il a vaincu la mort. J'ai dit que cette espérance est triple. deuxième, nous dit Pierre, c'est attendre avec joie les biens que Dieu garde pour nous. Attendre avec joie les biens que Dieu garde pour nous. Souvent, ce qui amène une personne à Dieu, ça commence souvent par être la peur, des fois. La peur de la mort, la peur de l'enfer. Mais ça, c'est qu'une première étape, souvent. Ce qui va nous guider, ce n'est pas la peur, c'est l'attente avec joie des biens que Dieu garde pour nous. C'est du concret. On reproche souvent des mauvaises théologies sur ce que sera la vie après la mort ou le ciel, où on s'imagine comme un pur esprit avec une petite harpe. Mais si vous n'aimez pas la musique, vous en êtes pour l'éternité. Mais la Bible nous parle de choses concrètes, d'une nouvelle terre, de corps ressuscité. Jésus dit à ses disciples qu'il leur prépare quoi ? Une maison auprès du Père. Et ce n'est pas seulement imagé, il veut montrer que quelque chose de très concret nous attend. Les chrétiens croient à la résurrection des corps. On va faire un petit jeu. Vous voulez bien ? C'est en tract. Alors je vais vous demander de fermer les yeux si vous voulez bien. Et imaginez votre coin de nature préféré. Pour cela, je t'aime que la ville, ça va être difficile. Non, j'en fais. Vous l'avez, votre coin de nature préféré. Vous l'avez. Maintenant, mettez-y la maison de vos rêves. Vous l'avez, la maison de vos rêves, dans votre coin de nature préféré. Et maintenant, devant dans le jardin, mettez-vous-y avec autour de vous les gens que vous préférez. Et tout cela ne s'arrête jamais. Ouvrez les yeux maintenant. Ça, je reprends les parties. C'est une chanson de Pierre Lachat, pour ceux qui connaissent. Et dites-vous que notre amour, notre capacité à imaginer est limitée, comme on l'a dit pour l'instant, et que les biens que Dieu garde pour nous dépassent toute cette espérance. Ça donne le sourire au moins, non ? À défaut de transporter dans un premier temps. Et la dernière composante de l'espérance que Pierre nous donne, c'est que nous verrons Jésus. Nous verrons Jésus. Et on voit bien dans le texte, on sent bien dans le texte que Pierre, qui avait connu le Christ, qui avait vécu avec lui, il devait être émerveillé de voir les générations suivantes faire confiance à quelqu'un qu'ils n'avaient pas connu eux-mêmes directement. En tant que chrétien, nous faisons confiance à quelqu'un que nous n'avons pas vu. Et comme les gens se moquaient de Noé qui construisait son bateau bien au sec, en lui disant « Où est la mer ?» Les gens nous disent « Il est où ton Dieu ?» Il est où ton Dieu ? Profites-en plutôt. Et c'est dur de renoncer à certaines choses pour appliquer l'enseignement de Jésus, d'avancer à l'aveugle. Tu peux être tenté d'abandonner, tu luttes pour cela. Et Dieu en a bien conscience de cela. Mais quand tu le verras face à face, quand je le verrai face à face, que nous dit le texte ? Et c'en est presque choquant, vous verrez. Nous recevrons de la part du Christ honneur, louange et gloire. Attendez, honneur, louange et gloire, ça ne me rappelle rien ? C'est ce que nous mettons de côté pour l'instant. C'est ce qui est réservé à Dieu dans nos prières. La fin du Notre Père, car c'est à toi qu'appartiennent. On dit que c'est à Dieu, ça. Et Dieu, quand on verra Jésus face à face, qu'est-ce qu'il nous donne dans cet texte ? L'honneur, la louange et la gloire. Dieu nous en fera cadeau en partage. Comme je dis, c'en est presque choquant. C'est lui du moment, cette confiance qu'on fait, se fait d'avancer à l'aveugle de croire que appliquer l'enseignement du Christ, même si on n'en voit pas les fruits maintenant, ça vaut le coup. ça recevra une récompense plus tard. Et gardez ces trois choses en tête. Dieu est le gardien de mon âme. Il est bien précieux pour moi. Il va me restaurer quand je le verrai. C'est ça, en travaillant sur ces trois choses-là, qui va nous donner cette joie qui transporte. Alors moi, en travaillant ce texte, je travaille aussi mon été, les colonies pour de plongée sous-marine pour les enfants. Et avant de travailler ce texte, j'étais dans un état d'esprit en me disant, bon, qu'est-ce qui va encore nous arriver? Un contrôle de la gendarmerie maritime, quel accident, il faut que j'évite, que c'est beaucoup de responsabilité d'emmener des enfants sous l'eau, etc., etc. Et après avoir lu ce texte, je dis, mais j'ai la chance incroyable d'annoncer l'évangile à ces enfants. On va passer des plongées merveilleuses à voir la création de Dieu. Et quoi qu'il arrive, il me garde. Il me garde. Et vous, comment ça va changer vos vacances? Comment ça va changer ces semaines à venir?